إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous suivons inshallah cette série de cours d'explication sur le livre Manhaj al-Salikin, Kitab Manhaj al-Salikin en langue française, une langue française. Nous en sommes arrivés au chapitre de la purification. تفضل اقرا. Donc ici, l'écrivain, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah, a débuté son livre après avoir parlé des cinq statuts juridiques, car la personne en aurait besoin dans la compréhension du fiqh, par le chapitre de la purification. Mais il a donné un préambule, un préambule. Et souvent, les savants, quand ils faisaient les livres de jurisprudence, ils faisaient une muqaddima, une introduction sur certains points de la croyance. Et ici, le cheikh a voulu faire cela en rappelant les cinq piliers de l'islam et en rappelant l'importance de la double attestation de foi et son sens, le sens de la double attestation de foi. Shahada, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. At-tahara, la purification, elle a deux sens. At-tahara al-ma'nawiyya wa at-tahara al-hissiyya. La purification spirituelle et la purification matérielle, physique. Dans le fiqh, on n'étudie pas la purification spirituelle. Ce n'est pas la matière. La purification spirituelle, elle s'étudie dans la aqidah, dans la croyance, dans le dogme. Elle s'étudie dans ilm suluk, la science de la purification des âmes, de l'éducation. Tout ce qui est lié à la science de l'éducation en islam. D'ailleurs, beaucoup de gens ignorent que l'islam a donné une grande importance à la science de l'éducation. Et on a donné des principes et des bases, a enseigné des principes et des bases dans la science de l'éducation. Et à cause de leur ignorance que l'islam a mis des fondements et des bases dans la science de l'éducation, on va les trouver se tourner vers l'expérience des non-musulmans concernant l'éducation, la science de l'éducation et la science des âmes. Donc ils vont apprendre des philosophes, des psychologues, des éducateurs non-musulmans qui même parfois ne croient même pas dans une existence d'une vie après la mort, qu'est-ce que la science de l'éducation? Et on va trouver des frères et des sœurs qui sont pourtant, en dehors de ça, investis dans leur religion, mais subhanallah, sur ce domaine, on dirait Allah, il leur a mis des voiles sur leurs yeux et sur leur cœur, ils ne comprennent plus rien. Ils ne veulent pas, dans ce domaine, prendre leur science du Coran et de la Sunna. Il ne veut pas dans ce domaine se baser sur les fondements islamiques, mais sur l'expérience des philosophes, des psychologues et des soi-disant spécialistes de l'éducation alternative. Ça, c'est une grande erreur. Il n'y a pas un aspect de la vie qui a été occulté par l'islam. Pensez-vous que l'islam a occulté le côté de l'éducation et de la purification des âmes ? Bien sûr que non. C'est même un pôle très important et essentiel en islam, qui a été traité par le Coran, qui a été traité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique, qui a été traité par les compagnons, par les grands imams de l'islam, par les grands savants. Il y a des ouvrages entiers sur ces domaines. Il y a un enseignement. Mais subhanallah, il est méconnu par la majorité des musulmans, ce côté-là. Alors que l'objectif n'est pas la pratique de l'islam d'une manière mécanique. Mais l'objectif, c'est de comment aussi se débarrasser du shirk, du polythéisme, de l'associaterie, qu'il soit grand ou petit. Donc c'est sur ça que travaille la science de l'éducation et de la purification déjà. Purifier son cœur du polythéisme. Je ne pense pas que les philosophes et les psychologues et les spécialistes de l'éducation travaillent sur ce domaine-là. Au contraire, ils amènent des idées et des pensées contradictoires au tawhid, comme quoi l'être humain peut lui-même changer les choses, peut lui-même diriger l'avenir et diriger le destin. Que tout est en lui, la force, elle est dans l'humain, pour l'humain. Dans l'humain, pour l'humain. Il n'y a pas pour l'au-delà. Il n'y a pas le paradis. C'est que dunya, matériel. Comment réussir? Réussir quoi? L'argent, le matériel, c'est tout. Est-ce que l'islam appelle à ça? Non. Jamais. Et le grand malheur, c'est de voir nos frères et nos sœurs qui sont en dehors de ce domaine-là, investir dans leur religion, mais dans ce domaine-là, ils appellent à une voie autre qu'à la voie de l'islam. Complètement contradictoire même. Donc l'islam, la purification des âmes et l'éducation des âmes, ce n'est pas le domaine qu'on traite ici dans le fiqh. Mais c'est le fiqh al-akbar. comme l'a appelé l'imam Abu Hanifa, les livres de dogme, de croyance, il a appelé ça al-fiqh al-akbar, la plus grande connaissance. Quelle meilleure connaissance, quelle plus grande connaissance que la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, que la connaissance de la réalité de notre objectif sur cette terre, que la connaissance de son âme et de comment l'éduquer et comment faire que son âme soit soumise à Allah, comment faire les efforts pour que l'on devienne des serviteurs humbles, soumis et que l'on concrétise la servitude dans notre vie. C'est ça la science de la purification. Barakallahu fikum. Et qui est complètement à l'opposé, donc la science de la purification et de l'éducation d'une vision islamique, complètement à l'opposé de la science de l'éducation et la philosophie que aujourd'hui les, entre guillemets, les coachs de vie proposent, qui sont que des propositions matérielles, pour des objectifs purement matériels, et avec des moyens qui sont souvent illicites, que la plupart des gens ne perçoivent pas car ils sont ignorants. Mais et dans leurs discours, et dans leurs objectifs, et dans les moyens utilisés, il y a des contradictions énormes aux enseignements de l'islam. Énormes. Donc, ce côté de la purification, bien sûr, c'est un côté important que la personne acquiert quand il est le disciple d'un cheikh qui va l'éduquer. D'un cheikh sur la sunna, pas un cheikh comme certaines sectes qui va lui dire de faire des choses contradictoires à la sunna. Non, quelqu'un qui va l'éduquer, lui enseigner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son comportement, dans sa manière d'agir, dans la manière d'acquérir la modestie, dans la manière d'acquérir l'humilité dans la prière, dans la manière de parfaire son comportement, être plus patient, dans la manière d'être plus affable, etc. Parfaire son caractère, son comportement, pour être un serviteur aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça s'appelle aussi al-tahara en islam. Al-tahara al-ma'nawiyya, la purification spirituelle. Mais dans le fiqh, on parle de la purification matérielle que l'on peut toucher, c'est-à-dire se purifier des impuretés. Ou bien être en état de pureté, sortir de l'état d'impureté rituelle pour la prière, par exemple. Ou pour faire le tawaf, par exemple, comme on va le voir ailleurs. Donc, être en état de pureté rituelle, ça c'est taharatu min al-ahdath, min al-hadath, et être en état de pureté matérielle, c'est-à-dire se débarrasser des impuretés. La différence entre ces deux-là, c'est que l'une est une adoration. L'état de pureté rituelle est une adoration. Elle nécessite obligatoirement une intention. Et il y a une manière spécifique de les accomplir. Par exemple, quelqu'un il vient, il dit, je veux faire les ablutions, il dit, ah, je n'ai pas à me fatiguer à faire dans l'ordre, ça ne m'intéresse pas. Allez, je me jette de l'eau sur le corps et je prie. Comme ça. Ah, moi, je suis propre. Tu lui dis, viens prier, tu as fait les ablutions. Il dit, je suis propre, je me suis lavé chez moi. Est-ce que ça compte comme des ablutions? Non. Ni il a mis l'intention, ni il a suivi la manière de faire obligatoire de faire les ablutions. Donc, ces ablutions ne sont pas valides. Pourtant, il est propre. L'eau a touché son corps. Mais ni l'intention n'était là, ni l'ordre entre les obligations n'était là, ni peut-être tous les membres n'ont été lavés correctement. Donc voilà la différence entre le fait d'être en état de pureté rituelle, de se purifier de l'état d'impureté rituelle, quand quelqu'un est en état de janaba, de grande impureté rituelle, ou bien quand quelqu'un a perdu les petites ablutions, il est en état de petite impureté rituelle, alors, pour sortir de cet état, il devra obligatoirement se purifier. De la purification rituelle qui est nécessaire pour cette chose-là. Quand c'est de l'état de grande impureté rituelle, comme la personne qui est en état de janaba, ou la femme qui a fini ses menstrues, ou bien qui est sortie de ses lochis, de sa période de lochis, alors ils sont dans l'obligation de faire le ghusl, le bain rituel, pour être en état de pureté majeure. De même, quand quelqu'un dort, ou qu'il a émis un gaz, ou qu'il a été aux toilettes, il a uriné ou déféqué, il a perdu les petites ablutions, c'est-à-dire il est en état d'impureté mineure. Et pour pouvoir prier, il va devoir faire les ablutions pour sortir de cet état d'impureté mineure et être en état de pureté rituelle. Barakallahu fikoum. Donc c'est ça le chapitre de la purification. Sauf que là, il a fait un préambule, le cheikh, sur la purification spirituelle. Il a parlé des premiers piliers d'islam, qui est la double attestation de foi. Puis les autres piliers, il n'en a pas parlé, car on va en parler dans le livre. Donc, ces cinq piliers qui viennent du hadith de Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bunya al-islam wa ala khams » L'islam a été bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, le fait de donner la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Les cinq piliers de l'islam. L'attestation qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de savoir et de croire et de se soumettre et de s'attacher au fait que Allah seul mérite la divinité, d'être adoré. Et que l'adoration, elle doit être dirigée vers Allah seul et vers personne en dehors d'Allah, sans aucun associé, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un saint, ni rien, ni personne. Allah seul. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, elle a des conditions pour être valide. Sans ces conditions, elle n'est pas valide. La première condition, c'est la science, de comprendre le sens de cette parole, ce qui est contraire à l'ignorance. La deuxième condition, c'est la certitude dans cette parole, en ce qu'elle contient comme sens, qui est le contraire du doute. La troisième, c'est la sincérité, qui est le contraire de l'associaterie et du polythéisme. La troisième, c'est la véracité, qui est contraire au mensonge, le fait de démentir. C'est-à-dire, on doit rendre véridique tout ce qui vient d'Allah. On doit rendre véridique cette parole et ce qu'elle contient comme sens. La cinquième condition, c'est l'amour. La personne doit aimer cette parole et ce qu'elle contient comme sens, et ce qu'elle englobe, et ce qu'elle exige, les exigences de la ilaha illallah. Il doit les aimer. Ce qui est contraire au fait de détester. De même, il doit aimer les gens qu'Allah aime. Il doit aimer les choses qu'Allah aime. Il doit aimer les endroits qu'Allah aime. Et il doit détester les gens, les choses et les endroits qu'Allah déteste. La sixième condition, c'est le fait de se soumettre. C'est-à-dire de se plier au sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire de pratiquer. De pratiquer ce qu'elle incombe, ce qu'elle implique, qui est le contraire du délaissement. Celui qui en a rien à faire, il délaisse complètement, il s'éloigne complètement de cette parole et de ses implications. La septième condition, c'est l'acceptation, qui est contraire au rejet. Et la huitième, c'est le fait de mécroire et de rejeter les fausses divinités en dehors d'Allah. De même que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le fait que le serviteur croit de manière formelle que Mohammed, fils de Abdullah, a été envoyé à tous les hommes et tous les djinns jusqu'à la fin des temps. Comme annonciateur de bonnes nouvelles, et pour mettre en garde, il les appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les appelle à l'unicité d'Allah comme tous les prophètes avant lui. Tous les prophètes et messagers sont venus appeler au même message, à l'unicité d'Allah. D'ailleurs, dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prophètes sont des frères de père. Leur père est un et leurs mères sont différentes. C'est-à-dire qu'ils ont un message commun, des fondements communs. Mais leur législation et leurs règles peuvent être différentes sur certains aspects. Bien sûr, pas sur les aspects de base, comme le tawhid, comme l'interdiction des grands péchés, comme l'obligation des vertus. Toutes les législations sont venues appeler au même principe. Du tawhid, de la bonté, de la moralité, de la mise en garde contre les grands péchés et l'appel aux vertus. Par contre, ils ont pu différer dans certains détails. Certains points de législation dans la manière de prier, dans la manière de jeûner, dans la manière de faire les ablutions, dans certaines choses licites pour certains, illicites pour d'autres, qui ont des lois qui ont abrogé les lois précédentes. Et le Coran est venu abroger tous les livres précédents. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu comme sceau des prophètes pour appuyer, confirmer ce qui était juste et transmis par les prophètes précédents, corriger ce qui a été falsifié, rajouté ou diminué après la mort des prophètes, et avec des nouvelles règles spécifiques à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tous les musulmans et à tous les hommes et djinns jusqu'à la fin des temps. Donc, concernant la purification spirituelle, le cheikh a juste appuyé sur le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'ailleurs, la purification spirituelle se base sur ça, sur la sincérité et le suivi. Il ne peut pas y avoir de purification spirituelle en sortant de cela, en y ajoutant du shirk, comme certaines sectes qui adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des saints ou des idoles et qui prétendent vouloir se purifier. C'est pas possible, car la base de la purification, c'est de vouer un culte exclusif à Allah. Ou comme certains groupes égarés qui voudraient s'approcher d'Allah par une voie autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en innovant dans la religion, avec les innovations religieuses, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les pratiques, qui sont contradictoires à la tradition prophétique. Donc voilà pourquoi il a, on va dire, poser les fondements de la purification spirituelle, qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est ça la purification. Si tu veux te purifier spirituellement, c'est sur, avec ces deux rails. Si tu sors de ces rails-là, bah, tu dérailles justement, tu sors du droit chemin. Et tout de suite après, il rentre dans le premier chapitre qui est traité dans le fiqh, dans la jurisprudence, qui est le chapitre des eaux.
Cet homme à qui il est apparu avoir une situation pour la vie.
Now, le chapitre des eaux. Donc, pourquoi il a commencé la purification, le chapitre de la purification par le chapitre des eaux? Car pour se purifier, pour pratiquer la purification rituelle, on ne peut le faire qu'avec l'eau, à la base. Et le tayammum est seulement dans le cas, la purification avec la terre, et seulement dans le cas où l'eau n'est pas trouvable ou ne peut pas être utilisée. Donc ce n'est qu'une un remplaçant, ce n'est pas la base. Le tayammum est un remplaçant. Il n'est utilisé que dans le cas où l'eau ne peut être trouvée ou l'eau ne peut être utilisée. Il a dit, quant à la prière, elle est précédée par des conditions. Donc il veut là maintenant, il a cité le premier pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam, maintenant il parle du troisième pilier de l'islam, qui est la salat, la prière. Mais la prière, avant d'entrer dans la prière, il y a des conditions de validité pour cette prière. C'est pour ça qu'il a dit, quant à la prière, elle est précédée par des conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, condition? Dans les obligations pour la prière, il y a trois types d'obligations. Les trois sont obligatoires. Mais elles sont différentes sur certains points de vue. Il y a les conditions, il y a les obligations qui sont des piliers, et il y a les obligations qui ne sont pas des piliers. Tous ceux-ci sont des obligations dans la prière. Tous. Que ce soit les conditions, que ce soit les piliers, ou que ce soit les obligations qui ne sont pas des piliers, elles sont toutes obligatoires. Donc le premier statut, c'est qu'elles sont toutes obligatoires. On est dans l'obligation de les faire. Mais il y a des différences entre eux. Première différence, la condition précède l'acte. Et elle accompagne l'acte tout au long de sa pratique. Écoutez bien, la première différence entre la condition et le pilier, et la condition et l'obligation, c'est que la condition doit obligatoirement précéder l'entrée dans l'acte. Et rester présente tout au long de la pratique de l'acte. À la différence du pilier. Par exemple, réciter la Fatiha, c'est un pilier. On la récite pendant la prière, pas avant. Puis une fois qu'on a fini, on peut passer à un autre pilier. On n'est pas obligé de réciter la Fatiha du début jusqu'à la fin de la prière. N'est-ce pas? À la différence de la condition. Deuxième différence. La condition, elle est comme le pilier, dans le sens où si on oublie la condition, l'oubli n'est pas excusable dans le sens où on est obligé de refaire l'acte. À la différence de l'oubli d'une obligation qui n'est pas un pilier, la personne qui l'oublie n'est pas dans l'obligation de refaire l'acte. Son acte sera valide à cause de l'oubli. Un exemple. Quelqu'un prie sans les ablutions. Et il se rappelle après la prière qu'il a prié sans les ablutions. Est-ce qu'on lui dit, c'est pas grave, tu as oublié, ta prière est valide? Non. On va dire, tu es excusé. Dans le sens, tu n'as pas de péché, car tu as oublié. Donc d'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera pas des comptes du fait qu'il ait prié sans ablution. Car il l'a fait par oubli. Ça, on est d'accord. Ça, c'est valable pour toute obligation qu'on a délaissée par oubli. Mais, comme c'est une condition, il devra obligatoirement faire les ablutions et refaire sa prière. On va donner le même exemple avec une obligation de la prière qui n'est pas un pilier et qui n'est pas une condition. Par exemple, la personne a oublié le tashahhud du milieu, le fait de faire le tashahhud du milieu dans une prière qui a plus de deux assises, ou le fait de dire « Sami'allahu liman hamida », ou le fait d'oublier de dire Allahu Akbar, pas le premier, pas celui pour entrer en prière. Parce que celui qui ne l'a pas dit pour entrer en prière, il n'est pas entré en prière. Il est encore en dehors de la prière. On parle des autres takbirat et l'intiqal. Les Allahu Akbar qu'on dit pour aller en recours, pour aller en sujoud. Alors, tout ceci sont des obligations dans la prière. Mais qui ne sont pas des piliers. Si quelqu'un a oublié de pratiquer une de ses obligations, et qu'il s'en rend compte pendant la prière, il les réparera avec deux prosternations de réparation. Et s'il se rend compte tout de suite après la prière, pas longtemps après la prière, il les réparera avec deux prosternations de réparation. Par contre, s'il s'en rappelle longtemps après, alors, chez certains savants, il n'a rien à faire. Sa prière est valide. Chez d'autres, ils disent, même s'ils s'en rappellent longtemps après, c'est pas grave. Ils se prosternent de prosternation, de réparation. Est-ce que s'il avait fait ça avec un pilier ou une condition, c'était possible de réparer avec deux prosternations? Non. Il aurait dû refaire toute la prière. Vous voyez la différence? Donc, c'est ça les conditions. Les conditions, shurut, ce sont des obligations qui précèdent la pratique de la prière, pour se préparer pour entrer en prière. Et qui doivent être présentes tout au long de la prière. Par exemple, quelqu'un a les ablutions avant la prière. Il rentre en prière avec les ablutions. Juste avant de faire le taslim, le salam, il perd les ablutions. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, les frères? Comment? Il doit refaire toutes ses ablutions. Et il doit refaire toute la prière. Juste avant le salam. Il a fait 4 rak'at entières avec les ablutions, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. C'est ça les conditions. Barakallahu fikoum. Tayyib. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est une condition, maintenant je vais parler encore d'un autre point qui est important. Il y a des conditions, shurutul wujub. Les conditions d'obligation, c'est-à-dire les conditions qui rendent obligatoire de faire cet acte. Et il y a des conditions de siha, de validité. Écoutez bien. Shurutul wujub wa shurutul siha. Tayyib. Avec les exemples, vous comprendrez mieux. Un non-musulman, s'il prie, est-ce que sa prière est valide? Non. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de validité, shurut siha, il y a l'islam. Islam. D'accord? Mais, est-ce que Allah lui demande de faire la prière? C'est une question qui est un petit peu pointilleuse, mais réfléchissez, vous allez comprendre. Quand je vais vous répondre, ça va être clair, inch'Allah. Est-ce que Allah demande aux non-musulmans de prier, de jeûner, de faire le hajj, de donner la zakat, de délaisser les interdits, de faire les obligations? Est-ce qu'il leur demande? Est-ce qu'Allah leur a ordonné au même titre qu'il a ordonné aux musulmans? Oui ou non? Répondez, n'ayez pas peur, on apprend. Comment? Oui? Non? Qui dit non? Levez la main. Non, Allah il ne leur a pas ordonné. Qui dit oui, Allah il leur a ordonné. La majorité cette fois a la raison. Oui, Allah leur a ordonné. Comme il l'a ordonné à tous les hommes et tous les djinns. Mais elle ne sera acceptée d'eux qu'avec l'islam. Un exemple parlant pour comprendre cette différenciation. Quand entre l'heure de la prière, est-ce qu'Allah a ordonné à tous les musulmans de prier? Oui. Si quelqu'un dit « Oui, mais moi, je n'ai pas le wudu. » Et pour prier, pour que la prière soit valide, il faut le wudu. Donc, puisque je n'ai pas le wudu, la prière n'est pas obligatoire pour moi. Est-ce qu'on accepte cet argument? Non. Autant la prière sans les ablutions ne sont pas valides, autant s'il n'a pas les ablutions, il n'a pas une condition de validité de la prière, Mais autant Allah lui a demandé de prier. Et pour prier, il lui a demandé de faire des ablutions. De même, le non-musulman. Allah lui a demandé de prier, de jeûner, de faire la zakat, de faire le hajj. Mais pour faire cela, il doit d'abord entrer en islam. Car sans l'islam, ce n'est pas accepté de lui. Sans l'islam, ce n'est pas accepté de lui, comme celui qui se lève et qui prie sans les ablutions. Donc ce n'est pas parce que sans l'islam, la prière n'est pas acceptée d'un non-musulman, que cela veut dire qu'Allah ne lui a pas rendu obligatoire. Il lui a rendu obligatoire, et c'est pour cela qu'on voit dans le Coran qu'Allah Ta'ala parle des gens le jour du jugement dernier qui ont démenti le jour du jugement dernier. Quelqu'un qui dément le jour du jugement dernier, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Mais quand on leur demande pourquoi vous avez été châtié, ils disent قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. On ne faisait pas partie des gens qui priaient. C'est-à-dire, une des causes pour lesquelles ils sont châtiés, le fait qu'ils n'ont pas prié. Le fait qu'ils n'encourageaient pas à donner aux pauvres. Le fait qu'ils divaguaient avec ceux qui divaguent. Et le fait qu'ils traitaient de mensonges le jour du jugement dernier. Donc ces gens-là qui parlent dans le Coran, qu'Allah Ta'ala parle qu'ils vont dire cela, ne sont pas musulmans. Pourtant, ils disent qu'ils se font châtier car ils n'ont pas prié. Cette question-là, vous allez dire, ça sert à quoi de savoir ça? Hein? Parce qu'en vérité, c'est entre eux et Allah, c'est dans l'au-delà, n'est-ce pas? Dans ce bas monde, ça ne change rien, on doit les appeler à l'islam et leur montrer la réalité, le droit chemin. N'est-ce pas? Il y a une différence. Je vais vous donner certaines mises en pratique de cette règle. Celui qui dit, ce n'est pas obligatoire pour un non-musulman de prier, de jeûner, pendant Ramadan, il peut lui donner à manger. Lui préparer à manger. Et celui qui dit il lui est obligatoire de prier et de jeûner, il n'a pas le droit de lui préparer à manger. Il ne doit pas l'empêcher. S'il mange même chez toi, il se prépare lui-même, il mange, tu ne l'empêches pas de manger. Mais tu ne dois pas l'aider. Tu ne dois pas le préparer. Car tu l'aides à un péché. Parce qu'Allah lui a demandé d'être musulman et de jeûner. N'est-ce pas? Et toi, en lui préparant à manger, tu l'as aidé à désobéir à Allah. Donc tu es pécheur. Vous avez compris maintenant, cette règle, elle sert à quoi? C'est lié à l'au-delà, mais c'est lié à certains actes pour le croyant. Il ne peut pas aider le non-musulman à faire des choses qui sont considérées haram. Vous avez compris la différence? Barakallahu fikoum. Donc les conditions. Les conditions de validité de la prière sont nombreuses, sont plusieurs. 6, 7, on peut aller jusqu'à 9 selon les savants. Ici, il parle de la première condition qui est la purification. Comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas la prière accomplie sans purification. La prière de celui qui ne se purifie pas de l'état d'impureté rituelle majeure ou mineure ou encore des souillures n'est pas acceptée. Donc là, il parle de trois purifications. Première, la purification de l'état d'impureté majeure. Comment elle se fait? Par le ghusl, les grandes ablutions, le bain rituel. On va voir plus tard dans le chapitre du bain rituel, quand est-ce qu'il est obligatoire, il est obligatoire pour qui, comment on l'accomplit. Puis, les petites ablutions, le petit état d'impureté, qui sont les ablutions, le wudu. Quand la personne a perdu les ablutions, et qu'il doit faire un acte qui nécessite des ablutions. Ici, entre autres, la prière, la salat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la prière accomplie sans purification. » Donc, la grande et la petite purification. Ça, c'est un. Deuxièmement, la purification des souillures, de ce qui est considéré comme une impureté en islam. Attention, quand on dit « souillure » ou « impureté », ce sont des choses bien définies en islam. Ce ne sont pas des choses que toi tu considères comme être sales. Il y a une différence entre les impuretés, les souillures et la saleté. Par exemple, la gadoue, la boue. Quelqu'un va dire, je suis sale, je ne peux pas prier comme ça, je suis souillé. Mais la boue, c'est de la terre, c'est pur. Quelqu'un peut prier même s'il est rempli de boue. Bien sûr, ça ne convient pas. C'est mieux qu'il prie avec des vêtements propres, n'est-ce pas? Mais s'il ne peut pas, s'il travaille, il est maçon, il est je ne sais quoi, il est sous la pluie, il est agriculteur, et l'heure de la prière vient. Est-ce qu'il dit « je ne peux pas prier parce que je suis plein de boue » ? Non, la boue n'est pas une souillure, par exemple. Donc quand on dit « souillure », on va voir ensemble quelles sont les souillures, quelles sont les impuretés. Ce qui est considéré comme impur par Allah, non pas par notre goût à nous, ou le goût des gens, ou nos us et coutumes. Barakallahu fikoum. Et on va voir aussi, est-ce que le fait de se purifier des souillures, bien sûr c'est une obligation, ça il n'y a pas de problème sur cela, c'est obligatoire de se purifier des souillures. Mais est-ce que c'est une condition ou une obligation? On va voir qu'en fait il y a divergence entre les savants sur ce sujet, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une fois avec des sandales souillées. Et pendant la prière, Jibril alayhi salam est venu l'informer, c'est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, que ses sandales étaient souillées. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ôté ses sandales en pleine prière. Et quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient derrière lui ont vu qu'il a ôté ses sandales en pleine prière, ils ont tous ôté leurs sandales. Puis ils lui ont demandé, et il a dit, Jibril est venu m'informer qu'il y avait une souillure sur mes sandales. Païen. Tout à l'heure on a dit la condition. C'est quoi? Elle doit précéder la prière et elle doit accompagner la prière jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommencé la prière. Qu'est-ce qu'on comprend alors? On comprend que c'est une obligation de se purifier des souillures, mais ce n'est pas une condition. Ou alors, c'est une condition quand on a la capacité. Si on a oublié, ou on ignorait qu'on avait une souillure, ou qu'on avait l'incapacité de s'en débarrasser, alors, c'est pardonné. Certains l'expliquent de cette manière, certains de cette manière. Dans ce hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, on apprend plusieurs leçons. Premièrement, c'est une sunna de prier avec ses sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, contredisez les juifs, ils ne prient pas avec leurs sandales, priez avec vos sandales. Bien sûr, tu ne rentres pas avec tes sandales sur une moquette. Alors, les gens ils vont m'entendre, ils vont rentrer demain avec leurs sandales. Non, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en terre. Ils avaient mis après des gravillons. Donc si tu pries dans un endroit qui ne salit pas avec tes sandales, c'est sunnah de prier avec tes sandales. Deuxièmement, on apprend que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils suivaient d'abord, après ils posaient les questions. À la différence des gens aujourd'hui qui posent beaucoup de questions et à la fin ils ne suivent pas quand même. Je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, et on reprendra sur la purification du chapitre des eaux la prochaine fois, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa Inch'Allah, j'essaierai d'avancer plus vite. Parce que sinon, on va rester longtemps sur ce livre. Jazakumullahu khairan.